et on va faire un voyage. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alléluia. Alors on va faire un voyage, et ce voyage, c'est de Mara à Élim. Vous êtes prêts? Allez, de Mara à Élim, de bouger. Alors, c'est pour resituer un peu le contexte, hein, on s'aperçoit que on peut imaginer que nous sommes dans le désert avec le peuple. Et dans le désert, c'est difficile. Hein. Il fait très sec, il fait très chaud, on sue, on tire la langue. Bref, c'est la galère. C'est la galère. Et donc, on s'aperçoit qu'auparavant, alors que ça augurait quand même une perspective de joie, où ils ont été libérés. Ils sont passés de l'esclavage à la liberté. C'est le peuple de Dieu, hein, il est passé de l'esclavage à la liberté. Et si vous lisez les premiers chapitres, hein, donc de cette libération, vous allez vous apercevoir, hein, il y a même quelqu'un qui a composé un chant. Hein, c'était la sœur de Moïse. Elle va composer un chant, et puis on imagine le peuple qui est là en train de chanter parce qu'ils sont dans la joie, rendez-vous compte, hein, plus de 400 ans d'esclavage, et du jour au lendemain, ils sont libres. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Alors, donc évidemment que ça procure de la joie. Ils vont être confrontés assez rapidement à des situations, une situation notamment où ils sont en danger, ils sont face à la mer, mais on sait que le Seigneur va faire une chose extraordinaire pour leur montrer à qui ils avaient affaire, au Dieu, le seul Dieu vivant et vrai, qui a ouvert donc cette mer. Et donc, on est dans ce contexte-là, ils vont passer la mer, et ensuite, encore une fois, ils vont se retrouver face à une difficulté. Et on va lire donc cette histoire dans le livre de l'Exode, chapitre 15, verset 22. Exode 15, verset 22. Et c'est là que démarre notre voyage. Moïse fit partir de la mer Rouge. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, et ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous ?» Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois, des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Et il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau, et 70 palmiers, ils campèrent là, près de l'eau. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alors on sait que ce peuple, il nous ressemble finalement, hein, quand à certaines réactions. Et on voit donc à partir du verset 22 que Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. C'est le grand départ. Donc c'est juste, ils viennent de traverser, Dieu vient d'ouvrir la mer. Ils traversent donc cette mer, ils se retrouvent là dans ce chemin de liberté. Maintenant, c'est concret. Tout ce qu'ils avaient pu rêver à un moment donné, donc la liberté est là. Ils ont vu comment Dieu s'est occupé des Égyptiens. Ce qui leur est arrivé, tout ça, ils en ont été témoins. Et là, la mer s'est refermée. Et donc, nouvelle perspective, pleine de joie, une espérance dans leur cœur. Enfin, on va maintenant découvrir ce pays que le Seigneur nous a promis, un pays où coule le lait et le miel. Alors on peut ressentir là de l'effervescence et de la réjouissance. Et puis ils vont se retrouver là, et au bout de quelques jours, 3 jours, ils vont prendre une direction, la direction du désert de Shur. Alors pour un voyage, c'est quand même un peu délicat. Tout un peuple qui est là, et Dieu conduit le peuple au désert. Et ça nous fait penser qu'à un moment donné, donc dans la Bible, on trouve dans un passage dans les petits prophètes où il est dit que je la conduirai au désert. Et là, c'est au désert. Je parlerai à son cœur parce que c'est le seul moyen pour prendre conscience de qui est Dieu. Donc Dieu conduit le peuple dans le désert. Ils prirent la direction du désert de Shur et après 3 jours de marche, ils ont un problème. Dans ce désert, ils ne trouvent point d'eau. Il n'y a pas d'eau. Alors dans le désert, sans eau, l'issue est fatale. Donc on peut comprendre quand même le peuple qui est là et qui va à un moment donné se manifester. Ils sont confrontés à une grande difficulté parce que faire marcher, imaginez, hein, tout un peuple, les enfants, les familles entières, les troupeaux, à marcher sous le soleil pendant 3 jours. Je pense que le premier jour, ça pouvait aller. À partir du second jour, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui est monté. Puis le troisième jour, on voit qu'ils font le constat qu'il n'y a plus d'eau. Et c'est terrible. Donc, voilà, il y a quand même une certaine intelligence dans la réflexion. Ils disent, mais le Seigneur nous sort d'un endroit pour nous mener dans un désert. Et dans ce désert, on se retrouve sans eau. Qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Souvent, on a de la facilité à condamner et à juger le peuple. Alors évidemment, certaines fois, ils ont été... voilà, le Seigneur a été avec eux, mais n'oublions pas que là, ils sont au début. N'oublions pas qu'ils ne connaissent pas le Dieu vivant et vrai. Parce qu'ils étaient à l'Égypte. Et à l'Égypte, ils avaient cette habitude de vénérer d'autres dieux. Ils ne connaissaient pas le Dieu vivant et vrai. Il y avait besoin là, ici, d'un apprentissage. Et Dieu les a conduits au désert pour leur apprendre une leçon magistrale. Et dans cette leçon magistrale, ils vont arriver à un endroit. Cet endroit, ils vont l'appeler plus tard. Là, ils ne savaient pas trop. Hein. Ils vont l'appeler Mara. Parce que, est-ce que vous voyez un peu la scène où, quand ils ont vu, certainement, hein, la soif qui était là, quand ils ont vu au loin qu'il y avait un point d'eau, certains, parce que dans les groupes c'est comme ça, hein, certains intrépides, hein, ils ont dû prendre les devants, dire « enfin il y a de l'eau », ils ont commencé sûrement à courir, et là ils vont goûter l'eau, et l'eau elle a un problème, c'est qu'elle est amère. Ils arrivèrent à Mara, verset 23, et ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère, c'est pourquoi ce lieu fut appelé par la suite Mara. Alors nous voilà dans un endroit appelé Mara. Quelle déception pour le peuple. On la sent, hein, cette déception, lorsqu'ils ont enfin pu apercevoir l'eau. Alors ils vont avoir une réaction. Il faut absolument un coupable. Et le coupable, il est tout trouvé. On l'a lu ensemble, ils murmurèrent contre Moïse, en disant, mais tu nous as fait sortir. Tu nous as fait sortir du pays d'Égypte pour nous ramener dans cet endroit. On va mourir ici. Mais quelle est cette folie? Le peuple, verset 24, murmura contre Moïse en disant, mais que boirons-nous? Et ça nous montre la déception. Et j'aimerais un peu appuyer là-dessus par rapport à ça, que ça peut arriver que dans nos vies, on soit déçus. Déçus, alors de nous-mêmes, ça arrivera. Mais déçu de Dieu. Parce qu'il y avait de l'espérance, donc je vous le disais tout à l'heure, de la joie. Dire, enfin, nous sommes libres. Et donc, ils vont se retrouver là, une déception terrible. Et là, le peuple est déçu. Déçu de l'homme de Dieu, parce qu'ils vont le condamner. Ils vont murmurer contre lui. La déception déclenche des choses en chacun d'entre nous. Celui qui est déçu. Déçu des hommes, déçu de Dieu. Il y a un raz-de-marée de questions qui vient se poser. Mais pourquoi? Pourquoi j'ai donné ma confiance? Pourquoi j'ai fait ceci? Pourquoi j'ai engagé ma famille à suivre ce Moïse pour nous amener dans un désert, finalement, où là, nous allons mourir? La déception, ce qu'elle peut engendrer également, ce sont des pensées et des sentiments qui sont confus. Il y a une confusion qui est là, ils ne maîtrisent pas tout et ils sont déboussolés. Et puis, il y a ce que peut amener également la déception, c'est simplement un monologue envers Dieu, où on peut lever le poing contre Dieu, même lui reprochant certaines choses. Et ici, c'est un peu ce qui va se passer au travers de ce murmure, de cette condamnation par rapport à l'homme de Dieu. Le peuple commence à murmurer, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu était là, c'était son plan, parce qu'il voulait qu'il puisse découvrir quel Dieu il est. Et des fois, ça représente également que nos attentes et celles de Dieu ne s'accordent pas toujours. Si un jour, on vous a prêché cet évangile en disant « Viens au Seigneur Jésus et tous tes problèmes seront réglés », j'aimerais vous dire que c'est un faux évangile. Parce que tous nos problèmes ne sont pas réglés. Au contraire, le Seigneur nous dit que celui et celle qui me donne sa vie, qui décide de s'engager avec moi, alors il va rencontrer des difficultés. Il va rencontrer encore davantage des problèmes. Pourquoi ? On marche à l'opposé de la majorité des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Alors, l'évangile, évidemment, vous n'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Évidemment que quand on vient au Seigneur, quand on a des difficultés, le Seigneur vient. Voilà, et petit à petit, il enlève certaines choses pour qu'il y ait cette satisfaction, cette plénitude, qu'on vive la bénédiction du Seigneur. Évidemment qu'il le fait. Mais concernant les persécutions, et on le voit un peu partout, certains pays, le fait de donner sa vie au Seigneur, on prend un risque. Le risque de mourir. Simplement parce qu'on décide de s'engager avec le Seigneur et de donner notre vie. Alors dire qu'on vient au Seigneur et tous nos problèmes seront réglés, c'est tellement important. Parce que des fois, on a une image de la vie chrétienne qui est un peu faussée. Souvent, quand on fait les entretiens pour le baptême, on explique tout ça en disant que quand il y a la bénédiction de Dieu sur nos vies, quand on a découvert qui est Dieu finalement, on pense que ces choses-là vont perdurer et ça ne va pas s'arrêter. Mais j'avertis régulièrement pour dire, mais il va y avoir un temps où on va être confronté à des difficultés. Il va y avoir un moment où il va y avoir, certes, de la tristesse, on va traverser des déserts, on va traverser des moments difficiles. Et tous ceux et celles qui ont donné leur vie au Seigneur savent de quoi je parle ici, évidemment, parce que c'est le lot. Pourquoi ? Parce que la raison, et on l'a partagé un peu hier avec les jeunes, la raison c'est parce que le Seigneur veut se manifester en tant que Dieu d'amour, alléluia. Il y a certaines choses qu'on ne comprend pas, mais qui ne sont pas bonnes pour nos vies. Alors, ajuster nos attentes à celles de Dieu, il y a des fois où ces attentes ne s'accordent pas, parce que nous avons des attentes qui ne sont pas réalistes. Mais Dieu n'est pas comme nous. Ne serait-ce qu'au niveau de l'amour, au niveau du pardon. D'ailleurs, concernant le pardon, Jésus va faire cette déclaration concernant le pardon. C'est Pierre qui va venir. Et on peut sentir un peu comme quand même quelque chose de fort dans son cœur en disant, Seigneur, combien de fois il faut que je pardonne ? Trois fois. Déjà, trois fois, c'est pas mal, je trouve. Trois fois, c'est pas mal. Quand on est offensé, que la personne vient nous voir une fois, deux fois, au bout de la seconde fois, on commence à le regarder un peu, n'est-ce pas ? Trois fois, alors il pose la question, c'est-à-dire, non, t'as pas compris. Tu n'as pas compris. C'est en fait, il faut pardonner cette fois, 70 fois, ce qui représente, donc, si quelqu'un nous offense, et il vient nous demander pardon, n'oublions pas ce détail important, et qui vient nous demander pardon, toutes les 3 minutes dans une journée de 24 heures, on doit lui accorder le pardon, c'est ça? Qu'est-ce que Jésus a voulu démontrer? Que le Seigneur, il ne pardonne pas comme nous. que le Seigneur aime pas comme nous. Nous, on aime sous certaines conditions. Si tu m'aimes, on sera amis. Si tu m'aimes pas, il y aura quelques difficultés. Pourquoi ? Parce que nous, notre amour, il est conditionnel. Mais l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, c'est un amour inconditionnel. Alléluia. Et ce matin, nous sommes au bénéfice de cet amour. Oui, Dieu n'est pas comme nous. Alors, autant on peut être déçu. On peut être déçu par l'homme. J'aimerais vous dire que dans une vie, même si on peut être déçu par l'homme, tôt ou tard, ça sera à votre tour, vous allez décevoir quelqu'un. J'aimerais vous dire, en tant que pasteur, que peut-être il y a des fois dans nos rapports mutuels, quelqu'un au milieu de nous va me décevoir. Mais également dans l'autre sens. Et des fois, sans le programmer, sans le vouloir. C'est simplement mettez un peu de l'humain quelque part, et on va vite s'apercevoir qu'il va y avoir des problèmes. On met de l'humain et il va y avoir des soucis. On peut décevoir les autres. Mais le Seigneur nous propose de ne pas rester sur la déception. D'aller au-delà. Parce que si on s'arrête sur la déception, en tant que pasteur, en tant qu'ancien, hein, en tant que responsable d'une activité, n'est-ce pas les responsables, si à chaque fois qu'on est déçu, on laisse tomber, ben, il n'y aurait plus grand monde pour servir. Passer un cap, aller plus loin. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que autant Dieu est infaillible, autant il est digne de confiance. Alléluia. Écoute, qu'écoute. Regardez Nombre, verset 23, chapitre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ça c'est le Seigneur. Et le Seigneur veut que chacun puisse découvrir ces choses-là. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc il faut passer au-delà de la déception. Si Dieu promet quelque chose, si Dieu déclare quelque chose, assurément, il l'accomplira. Et là où ça va nous créer quelques problèmes, c'est au niveau du temps. Si ça tarde, alors le doute peut s'installer. On dire, mais peut-être que c'est moi, à un moment donné, j'ai mal compris. Mais moi, je crois que si le Seigneur vous a donné une promesse, il faut la serrer, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Il ne revient pas sur ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Alléluia. On s'aperçoit également quand il y a la déception, c'est comme si on n'y prend pas garde, ça peut être une porte ouverte et le diable peut s'infiltrer en venant avec des mensonges et nous faire croire à certaines choses. Regardez le psaume 73, juste là, quelques versets. C'est l'histoire d'un homme. Cet homme, c'est Asaph. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet homme, Asaph, c'était le responsable de la musique. Et en tant que responsable de la musique, je pense qu'il avait dû faire quand même quelques expériences avec le Seigneur, parce qu'on sait que la louange, ce qu'on a fait ce matin, nous rapproche du cœur de Dieu. Quand on chante des vérités, quand on les vit, la présence de Dieu, elle se manifeste. On en parlait dimanche dernier. Quand on est dans la louange, dans des moments personnels, c'est là où il y a comme une faveur particulière de la part du Seigneur et l'action du Saint-Esprit se manifeste dans nos vies. Celui et celle qui n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit, cherchez le Seigneur, mais cherchez-le dans la louange. Cherchez-le, adorez-le de tout votre cœur et abandonnez l'incrédulité, certaines incrédulités, la manière de faire. Et vous allez voir, vous allez être vite inondé de la présence de Dieu. Et Dieu veut favoriser dans nos vies des moments où nous vivons réellement la présence de Dieu. Alors c'est sûr qu'on ne marche pas par les sentiments ou par ce qu'on ressent. Ce n'est pas la marche par la foi. Moi, je suis pleinement convaincu que le Seigneur est avec nous. Pas besoin de me le prouver encore outre mesure. Mais régulièrement, le Seigneur vient visiter nos vies, vient visiter nos cœurs, parce que ça nous rassure, ça nous fait du bien, ça nous remplit. Après avoir été visité, c'est rarement qu'on fait la tête. Quand on a été visité par le Seigneur, on est rayonnant de joie parce qu'on a passé un temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Et c'est extraordinaire. Alors on revient à Asaph qui avait vécu des choses extraordinaires. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Alors déjà, ça commence bien. Mais il est honnête quand même avec lui-même et il relate une expérience qu'il a vécue. Et il dit, toutefois, mon pied allait fléchir. Pas dit qu'il est tombé, mais il allait fléchir un peu. Mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Vous voyez la tactique du diable ici? À un moment donné, il a porté ses regards autre part que dans la direction du Seigneur. Il a regardé ce qui, par rapport à ce que lui pensait, les personnes qui réussissaient dans la vie. Ça peut nous arriver à un moment donné à dire, mais Seigneur, d'ailleurs c'est arrivé aux disciples, Seigneur, on a tout abandonné pour toi. Et le Seigneur, il va leur faire cette promesse merveilleuse, dire, mais il n'y a personne qui n'ait abandonné quoi que ce soit sans que le Seigneur puisse le rétribuer si ce n'est pas dans cette vie. Ça sera dans la vie futur, et ça c'est extraordinaire, hein. Et le Seigneur nous bénit encore et toujours. Cet homme donc, il va porter ses regards ailleurs que sur le Seigneur, et quand on porte les regards ailleurs que dans la direction du Seigneur, alors ce qui va se passer, hein, c'est que va commencer à fléchir, et même être sur le point de glisser. Il porte envie aux insensés, donc son regard, hein. Et bon, là, il y a tout un commentaire. Mais ne laissons pas le diable. N'ouvrons pas. Il ne faut pas entrouvrir une porte. Ne donnez pas accès au diable, dit la parole de Dieu. Et quand on donne accès au diable, par certaines pensées, certaines façons de voir, de vérifier certaines choses, on va s'apercevoir que, comme Asaph, à un moment donné, dans cette déception, hein, parce que peut-être il se disait, mais moi, voilà Seigneur, je te suis, et puis je vois que les autres réussissent, et pas moi. Ici, Asaph, ce qu'il a fait, c'est qu'il a vidé son sac. Et moi, je crois que plus que jamais, même si on n'est pas dans des bonnes dispositions, allez dans la présence de Dieu et videz votre sac. Quand on est en colère, dites au Seigneur, Seigneur, je suis en colère. On le voit, hein, il y a des psalmistes, ceux qui ont écrit certaines psaumes, qui quand même interpellent. Parce qu'en fait, ils parlaient de cœur à cœur avec le Seigneur. Ils avaient découvert que Dieu était devenu leur ami et qu'ils pouvaient s'exprimer devant le Seigneur, hein, en restant dans le respect, évidemment. Alors il a vidé son sac. Son sac était rempli d'amertume. Parce qu'il regardait ailleurs, portait envie, il le dit. Hein. J'allais fléchir. Puis, il a laissé l'amour de Dieu le réconforter. Et c'est là le remède. C'est de regarder finalement ce que me donne le Seigneur. Et le Seigneur, il nous bénit jour après jour. On le dit de façon tellement simple. Il nous donne la respiration, le mouvement et l'être. D'ailleurs, c'est ce qu'il est, notre Seigneur. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Nous sommes ses enfants. Nous sommes des membres de sa famille. Donc, il y a quand même cette bénédiction qui en découle. Et souvent, nous vivons comme des esclaves. Et on se tient loin de la présence de Dieu. Alors que le Seigneur nous dit, mais venez. Venez dans ma présence. Laissez l'amour de Dieu réconforter vos cœurs. Et cet homme, ce qu'il a fait aussi, il a pris conscience de toute la réalité, de toutes les réalités de Dieu. Et moi, je prie. Pour moi, je prie pour vous, pour que chacun d'entre nous, nous puissions voir la réalité de Dieu. Combien de fois il nous protège dans la journée? Ça, on le saura quand on sera là-haut. Souvent, nous, on prend des choses comme des choses naturelles qui peuvent nous arriver. Mais le Seigneur est là, il nous protège, il veille sur nous. Même quand nous dormons profondément, le Seigneur veille sur nous, c'est extraordinaire. Alors, on doit revenir au Seigneur et ne pas laisser les mensonges du diable, parce qu'au milieu de la tentation, le diable va venir toujours avec une certaine technique ou tactique, et c'est toujours la même, il ne change pas. Il fait une œuvre, toujours la même, mais une œuvre qui le trompe, et qui nous laisse découvrir que c'est lui en fait qui agit, pour essayer de nous déstabiliser. Il va venir avec cette question en nous disant, Dieu a-t-il réellement dit? Souvent c'est comme ça. Et si on attrape ces paroles et qu'on la laisse pénétrer dans notre cœur, elle va prendre racine en nous et va s'installer le doute. Et puis on va rentrer dans la réflexion, c'est vrai. Depuis le temps que je suis au Seigneur, est-ce que ça vaut le coup? Pourquoi encore m'obstiner à suivre le Seigneur? Vous voyez le doute, quand il est semé, c'est comme un livret qui est jeté dans un champ de blé. Dieu a-t-il réellement dit le doute? Et ensuite, une fois que le doute, on est pris par le doute, le diable va venir avec cette pensée en disant, mais en fait, tu ne vas pas pouvoir résister. Tu ne pourras pas. Et c'est là où le Seigneur intervient en disant, mais moi, je t'ai donné mon Saint-Esprit qui habite en toi pour pouvoir résister contre les traits enflammés du malin. Pierre va le dire, résistez au diable. Si vous résistez, la résistance, c'est pas simplement, j'ai eu l'occasion de vous le dire, la résistance, c'est je prends le bouclier de la foi et ce n'est pas juste je me pare en protection, c'est j'oppose une force à une autre. C'est ça. Et la force que l'on doit opposer, c'est pas la nôtre, c'est celle du Seigneur. C'est opposer donc cette force. Et vous savez que le Saint-Esprit qui habite en nous, il a cette puissance de pouvoir nous faire comprendre certaines choses, certains principes de la parole de Dieu. Alors oui, on peut résister à la tentation et ne pas laisser l'ennemi venir nous déstabiliser, mettre le doute et des fois mettre l'incrédulité. Après quelques années à servir le Seigneur, il y a un paradoxe qui est là. Est-ce que ça existe un chrétien incrédule? Ben oui, ça existe. Ah, j'ai pu en côtoyer. Avec un discours, finalement, toujours négatif. Il arrive ceci, il arrive cela. On ne voit pas comment on peut s'en sortir. Alors, c'est sûr, quand on regarde nos éléments, on peut vite être déstabilisé, le doute. Est-ce que Dieu a suffisamment de puissance pour me sortir de là? Ça, c'est une porte qu'on laisse. Mais le Seigneur nous dit que nous avons cette capacité de résister et nous devons fermer certaines portes. Peut-être ce matin, quelqu'un a besoin d'entendre que tu dois fermer certaines portes à l'ennemi. Les fermer. C'est pas Dieu qui va venir, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va venir et qui va te fermer les portes. C'est notre responsabilité, fermer certaines portes. Ce qu'on entend. Fermer nos oreilles. Fermer nos yeux. Vous comprenez ici, vous voyez l'image. Il y a des choses qui pénètrent, qui vont procurer le doute dans nos vies. Le peuple arrive donc à Mara. Et à Mara, là, il y a des ravages. C'est l'amertume. On a vu la déception. Ils vont goûter cette eau. Et cette eau, elle est particulière. Elle est amère. Ah, quand c'est amer, c'est pas bon. Il y en a qui aiment quand on mange le... amer, manger amer, moi c'est pas trop mon cas. L'amertume, quand elle est là, elle fait une chose. Quand l'amertume est dans un cœur, alors déjà d'emblée, j'aimerais vous dire, ça se voit. Inutile de dissimuler, ça se voit. Et des fois, on dissimule avec plein de choses, un peu de religiosité, un peu. L'amertume, vous savez ce qu'elle procure? Elle ronge la vie, petit à petit. L'amertume ronge. Et non seulement elle ronge, et elle entretient plein de choses qui ne sont pas constructives. Quand l'amertume est dans un cœur, alors va venir le soupçon. On va soupçonner un tel ou une telle. Ça nous est déjà arrivé, alors moi à mes dépens. C'est qu'à un moment donné, dans ma marche chrétienne, j'ai appris la leçon de ne pas soupçonner. Parce que on est devenu des spécialistes en disant, ah oui, mais le frère ou la sœur ou telle personne, elle a fait ci parce que... Et là, on déroule toute l'histoire sans en connaître ni les tenants, ni les aboutissants. Et ensuite, quand on est confronté à la personne, quand on discute, on s'aperçoit que ce n'était pas tout à fait ça. Il y avait autre chose derrière qu'on ne savait pas. Frères et sœurs, c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit de ne pas soupçonner le mal. Soyons de ceux qui réagissent différemment et se dire, ok, il y a une situation qui est là, si le frère, la sœur, la personne a agi de cette façon, il y a quelque chose que je ne maîtrise pas, mais peut-être qu'elle a des arguments, peut-être il y a certaines choses qui sont là, que je ne maîtrise pas, mais je laisse tout entre les mains du Seigneur. Alléluia. Les soupçons, là, c'est ce que produit l'amertume. Et non seulement ça ne s'arrête pas là, les soupçons, les accusations, on va accuser. Combien de fois j'ai entendu, pas tout le temps ou régulièrement, mais je l'ai quand même entendu. Alors dans une certaine église où j'étais, on disait, pasteur, il faut que je vous voie, oui. Oui, mais dans cette église, il n'y a pas d'amour. J'ai dit, ah bon, vous avez constaté qu'il n'y avait pas d'amour? Non. Alors je lui ai dit, qu'est-ce que vous attendez, puisque apparemment, vous en avez. Qu'est-ce que vous attendez pour la diffuser au milieu de nous? Alors là, il a fait un pas derrière. Et puis, on l'a vu quelques dimanches essayer de faire un effort. Et puis, on n'a pas d'amour. On l'a entendu, ça. Hein? C'est parce qu'en fait, on vient avec des accusations. On vient accuser à tort et à travers. En fait, c'est l'amertume qui procure ça. Ensuite, il y a les regrets, le ressentiment, les rancœurs, les conflits, voire même parfois la haine. Est-ce que ça existe? Un chrétien qui partage le pain et le vin, qui apparemment est en communion avec le Seigneur, il a de la haine avec le frère et la sœur à côté, ou au fond dans la salle? Oui. Eh oui, ça existe. Là, je vous dis que ceux qui font ça, vous devez absolument vous remettre en question. On doit absolument se remettre en question parce que la parole de Dieu, elle est claire. Avant d'amener une offrande à Dieu, va te réconcilier. Et si on ne veut pas se réconcilier, c'est parce qu'il y a encore de l'orgueil dans mon cœur. Vous savez ce que, quand il y a de l'orgueil dans notre cœur, ce que fait le Seigneur? Alors, apparemment, vous ne le savez pas, mais si, vous le savez. Dieu résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. Dites-moi, j'aurais pu prendre Timothée. Alors je dis Timothée, vous allez comprendre pourquoi. J'aurais pu prendre Timothée ou Davidson, venir ici et essayer de les faire reculer. Moi qui mesure 1,60 m et quelques. Alors ça c'était à un moment donné, peut-être que. Voilà. À un moment donné, je faisais 1,60 m et quelques. Et que je puisse essayer de les faire bouger. Une chose est certaine, c'est qu'ils ne reculeront pas parce qu'ils ont plus de force que moi, ils sont plus grands que moi. Et des fois, on s'aperçoit que Dieu nous résiste. Mais si Dieu nous résiste, c'est pas lui qui va reculer. C'est certain. Dieu ne reculera jamais. C'est à nous réajuster. La haine qui est là, c'est la rancœur qui procure ça. Jusqu'à ce qu'il y ait des cœurs endurcis, des cœurs durs, où il n'y a plus rien qui pénètre. La présence de Dieu, elle leur coule dessus, comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Le cœur endurci, c'est terrible, il est plus malléable. La présence de Dieu ne pénètre plus dans ces cœurs qui sont devenus durs. Les conséquences et les dangers de l'amertume. L'amertume, avec ses conséquences, c'est qu'il va y avoir le mal de l'âme. Le mal de l'âme, avec des peurs, manque de confiance, vie déséquilibrée, comportement immature, perte de joie, au point de ne plus se réjouir. J'ai appris un mot cette semaine, c'est bien, hein, à tout âge on apprend. J'ai appris qu'il existait des catégories de personnes, ça s'appelle les agélastes. Les agélastes, ce sont des personnes qui ont de la difficulté, qui ne peuvent pas se réjouir, qui ont de la difficulté même à rire, sourire, à être dans la joie, agélastes. Alors, si vous êtes comme moi, vous avez appris ce mot, alors je l'ai appris il n'y a pas si longtemps, je ne vais pas paraître plus intelligent que qui que ce soit, ce n'est pas ici le propos. Mais en fait, voilà les conséquences, le mal de l'âme, jusqu'à ce se trouver prisonnier, se retrouver prisonnier avec les racines de l'amertume. L'amertume est envahissante, vous savez quoi ? Elle est contagieuse. Elle contamine. Si on a de l'amertume, vous allez vite vous apercevoir, si quelqu'un, je prends cet exemple de couple, si il y a un couple qui vit dans l'amertume, tôt ou tard, le conjoint, s'il n'est pas armé, vous allez voir que ça va contaminer. L'amertume produit du trouble. Ça trouble. Je ne l'ai pas mis, mais on peut lire, vous pourrez lire Hébreux 12, verset 15, qu'aucune racine d'amertume soit trouvée dans votre cœur. Elle détériore les relations, et ça c'est terrible pour une église, où la communion fraternelle doit être au centre de nos vies. Et ça détériore les relations. Et comme je l'ai dit, jusqu'à avoir le cœur endurci. Il va y avoir un remède pour les cœurs endurcis. Marc, chapitre 8, verset 17, la fin du verset 17, jusqu'au verset 19, Jésus, l'ayant connu, leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez, pas de pain ? Êtes-vous encore sans intelligence ? Et ne comprenez-vous pas, juste au préalable, hein, il est dit, le Seigneur leur pose la question, au verset 16, il leur dit, « Mais pourquoi avez-vous le cœur endurci ?» Et là, il leur dit, « Mais j'ai été avec vous, vous avez endurci votre cœur ?» Et verset 18, « Avez-vous le cœur endurci, ayant des yeux, ne voyez-vous pas ? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas ? Et vous n'avez point de mémoire. » Verset 19, « Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté ?»« 12, répondirent-ils. » En fait, ici, il leur dit... Mais rappelez-vous ce miracle extraordinaire. Le Seigneur, à tous ceux qui avaient le cœur dur, il est en train de leur dire, mais si j'ai fait ce miracle-là, je suis encore capable de le refaire. Je suis le Dieu de l'impossible. Je suis celui qui agit puissamment. Alléluia. Ici, le remède pour les cœurs durs, c'est de retrouver la mémoire. C'est de retrouver la mémoire spirituelle. Combien le Seigneur était bon. Combien il va continuer de l'être, alors que la mémoire de l'être humain, elle est courte. Ce matin, on en parlait avec certains qui étaient là, assez tôt. On dit que des fois, certains impriment plus que d'autres. Ils ont une mémoire exceptionnelle. On discute avec eux, ils sont capables de vous dire, oui, mais tel jour, ou alors par rapport à certains versets de la Bible. D'autres un peu moins, moins de mémoire, mais en général, concernant les choses de Dieu, ça peut nous arriver que des fois nous ayons la mémoire un peu courte. Vous connaissez ce chant qui nous dit « Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. » Il dit « Et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Alléluia, et c'est la réalité. Quand on commence à rentrer dans notre état d'esprit, nous souvenir que le Seigneur est bon pour nous. Alors, le nombre en est grand. Mais Dieu, lui, n'est pas rancunier ni hostile. Et ce matin, c'est dans sa prière, de Sylvain, hein, ce matin, tu l'as dit dans ta prière, heureusement, Seigneur, que voilà, tu n'es pas hostile à nous, ni rancunier, parce que Dieu n'est pas comme ça. Même quand on s'égare, il est toujours à notre poursuite pour que nous puissions revenir à lui, et autant de fois qu'on ait besoin de revenir, autant de fois, il nous accueille les bras ouverts. Ça, c'est la grâce et l'amour de notre Seigneur. Et son désir, le désir de Dieu, est vraiment que son peuple soit heureux et rassasié. Pas un seul amen. Là, on a loupé une occasion pour dire quand même amen, parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que vous soyez heureux.
Amen.
Et rassasié. Amen. Alléluia. Alors, on continue avec ce voyage. La solution... pour le peuple, elle est extraordinaire et étonnante. Un morceau de bois. Le Seigneur dit, il dit à Moïse, au travers de Moïse, voilà, tu vas jeter un morceau de bois dans ces eaux amères, et puis ça va devenir, ces eaux vont devenir douces. Je ne sais pas si on imagine. Ici, c'est, vous l'avez très bien compris, c'est l'image de la croix. Bois de la croix, il n'y a que la croix. C'est l'action, tout ce que le Seigneur a accompli. L'œuvre magistrale de la croix, c'est la seule chose qui peut purifier nos cœurs, nos âmes, nos vies. La croix, elle purifie. Et la solution, c'est un bout de bois. Regardez ce que va faire Moïse, verset 25. Moïse cria à l'Éternel. Et j'aimerais appuyer sur le don qu'a donné Jonathan ce matin. Justement, en préparant, je me disais, mais des fois, on reste silencieux. Certains subissent des situations, même pas la force de crier. Et des fois, on a besoin d'un frère, d'une sœur qui puisse nous accompagner. Et on prie que le Saint-Esprit communique aux uns aux autres. Va voir le frère, va voir la sœur, prier ensemble afin qu'on puisse crier à l'Éternel quand il y a une situation qui est là, qui accapare et qui nous traîne vers le bas. Et comme Moïse va crier, ici c'est une prière de détresse. Il va prier et l'Éternel lui indiqua. Il dit, ben, tu vas là. Le bois, un morceau de bois. On ne sent pas trop, je ne sais pas trop comment ça s'est passé, hein, mais on ne sent pas trop de l'hésitation au niveau de Moïse. Pourtant, le moyen est étonnant. Vous avez déjà tellement fait avec le Seigneur. Il lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. C'est simple. Hein? L'œuvre de la croix dans un cœur et dans une vie à cette puissance-là, alléluia, de bouleverser la situation, de la changer complètement. Un moyen surnaturel. Donc, et la parole, on voit beaucoup de moyens, et ils sont nombreux les moyens que le Seigneur emploie. Ils sont plus étonnants les uns que les autres. Surtout, quand vous avez besoin de chercher une direction, ne vous dites pas, le Seigneur va agir comme ça, il va faire comme ça, il l'a fait dans d'autres solutions. Laissez faire le Seigneur, ce n'est pas votre affaire. Occupez-vous de crier à Dieu. Quand je parle de crier, ça n'a rien à voir avec des décibels ou le volume sonore. On peut crier tout en restant silencieux. Un cri du cœur. Ce bout de bois, référence à la croix, et c'est là qu'en fait, Israël va faire cette rencontre personnelle avec El Rapha. El Rapha, c'est le nom de Dieu qui veut dire celui qui guérit. Si vous le prenez dans l'autre sens, ça a donné le prénom Raphaël. Celui qui guérit. Et Dieu veut que nous puissions comprendre qu'il est celui qui guérit. Il guérit les blessures, il guérit les cœurs. Il guérit, autant de fois que nous avons besoin de guérison, autant de fois le Seigneur est guéri. Et il dit, ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et qu'il le mit à l'épreuve. Dans une autre version, j'ai regardé, pour le mettre à l'épreuve, en fait il est dit, et c'est là où le Seigneur a voulu vérifier et voir ce qu'il valait. Ça sous-entend que le Seigneur vient voir ce que l'on vaut. Est-ce que nos paroles sont en adéquation avec ce que l'on fait ou ce que l'on dit? Et le Seigneur va venir avec quatre avertissements, c'est le verset 26. Les quatre avertissements, il dit, mais si tu écoutes, d'abord écoutez avant de parler. Certains sont pros, plutôt de parler avant d'écouter. Un jour, quelqu'un a dit, c'est pour ça que le Seigneur nous a donné... Donc, deux oreilles, une bouche, c'est pour écouter deux fois plus que ce que l'on parle. Écoutez, verset 26. Avoir cette droiture de cœur, deuxième avertissement. Obéir, et non seulement quand ces trois choses sont là, ensuite appliquer dans nos vies. Parce que sinon, ça va rester que de la théorie. Je connais des personnes et pourraient vous réciter plein de versets. Mais dans leur vie, c'est le désert total. Parce qu'en fait, ils n'appliquent pas ce qu'ils entendent dimanche après dimanche, mardi, autant de fois qu'il y a des réunions. On n'applique pas. Des fois, c'est arrivé, on a passé des bons moments, on s'est dit, oh là là, c'était super, on passe le pas de la porte, terminé, on ne se souvient plus, on passe à autre chose. On doit appliquer ce que le Seigneur nous dit. Donc ici, dans ce passage, quatre avertissements, deux promesses. Les deux promesses, c'est, alors si vous faites ça, il est dit, le Seigneur dit, je vous protégerai. Je serai moi-même votre protection. Et donc, c'est là où il va se présenter. Je suis celui qui te guérit, El Rapha. Alléluia. Et on va terminer avec, donc, ils arrivent à Mara. avec leur arrivée à Élim. Regardez, c'est à quelques kilomètres, une dizaine de kilomètres. Dans un endroit, il y avait de l'amertume, de la déception, puis quelques kilomètres plus loin, donc il fallait quand même faire cet effort. Il y a un endroit qui est tellement extraordinaire. L'endroit, Élim, veut dire palmier. Élim veut dire l'endroit où il y a des arbres. 10 kilomètres au sud, ils arrivèrent à Élim, et là, il va y avoir 12 sources d'eau. Dites-moi, combien il y avait de tribus? Une pour chaque tribu. Ce qui sous-entend que le moyen employé par le Seigneur, l'endroit où le Seigneur a voulu que le peuple se repose, qu'il puisse enfin boire de l'eau, était amplement suffisant pour chaque tribu et chaque personne. Alléluia. Un endroit particulier. Donc, 12 sources d'eau, 70 palmiers, l'oasis existe encore aujourd'hui, hein, vérifiez. Une source pour chacune des 12 tribus. Dans le désert, ils trouvent de l'ombre. En fait, ils ont besoin que de ça. Hein. De l'eau, de l'ombre, pour prendre un peu de répit. À Élim, c'est là où le Seigneur les a conduits. Il les a conduits dans des verts pâturages. Fameux psaume 23. Il les a conduits près des eaux paisibles. La promesse du Seigneur. Alors ce chiffre 12, évidemment, il a une représentation, il a une signification. Le chiffre 12 représente la perfection, la plénitude. C'est finalement ce que le Seigneur voulait accorder à son peuple. Il voulait leur accorder cette plénitude. Et c'est aussi là, pour chacun d'entre nous, que le Seigneur veut nous accorder. Est-ce que vous savez que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ? Colossiens, chapitre 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, en Jésus, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Mon frère et ma sœur, tu as tout. Arrêtons de nous plaindre. Et prenons. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit. La seule chose que nous ayons à faire, c'est de prendre. Tu as besoin d'amour, tu as besoin de paix, tu as besoin de quoi que ce soit pour ta vie. Ça se trouve auprès du Seigneur, parce que Dieu veut nous donner une vie de plénitude. Ce n'est pas une vie égocentrique ou égoïste, mais une vie de service et une vie altruiste. Est-ce que nous sommes conscients qu'il y a des Élim pour chacun et chacune d'entre nous? Et c'est là où le Seigneur veut nous amener. Pour vivre des temps de rafraîchissement, être rafraîchi dans la présence de Dieu. Afin également que ce soit des temps de repos. Pas pour rester là, ils vont rester là quelque temps, mais ça semblait pas mal quand même, dire ben, finalement, on va rester là pour toujours. Le Seigneur poursuivait un plan. Et ça nous montre que Élim, c'était une bénédiction de Dieu, mais ce n'était pas encore Canaan. À un moment donné, il a fallu qu'il se lève pour aller plus loin. Et pour nous, l'image, c'est celle-là. Le Seigneur nous bénit, nous sommes ici-bas. Mais notre destination, c'est le ciel. Notre destination, c'est auprès du Seigneur. Passer l'éternité avec lui. Et vous savez quoi? Dieu le désire, même plus que nous, que nous puissions passer l'éternité avec lui. Alors, vivons ces moments et cherchons la face du Seigneur. Il y a des fleuves de rafraîchissement que le Seigneur veut nous donner. Et c'est notre responsabilité. Et si chacun d'entre nous, nous sommes rafraîchis, nous nous sommes reposés, on a laissé la déception, on a laissé l'amertume, alors nous serons une église vivante, une église proche du cœur de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur va se manifester puissamment. Les personnes qui vont venir vont constater, ils vont dire, mais assurément, le Seigneur est au milieu d'eux. Et s'il est au milieu d'eux, alors je vais faire cette démarche de m'approcher de lui. Alors que le Seigneur puisse travailler nos cœurs dans cette perspective d'unité et d'aller dans un même sens et dans un même but. Que Dieu soit béni. On prie le Seigneur. Alléluia. À lui seul soit toute la gloire. Amen. Seigneur, nous bénissons, nous glorifions ton nom, Seigneur. Merci encore pour ta parole. Oh, ta parole, Seigneur, elle est bonne pour nos cœurs. Au travers de cet exemple, Seigneur, tu nous révèles, Seigneur, qu'il y a un voyage à faire. Et peut-être que dans ce voyage, certains se sont arrêtés dans cette source remplie de déception, d'amertume. Seigneur, je te prie, Seigneur, parce que toi, tu connais les cœurs. Je n'ai pas cette capacité, cette faculté de discerner, de voir quoi que ce soit, si ce n'est pas toi qui révèle. Seigneur, je veux te prier pour nous tous qui sommes là. Je crois de tout mon cœur que tu ne parles pas aux absents. C'est que ce message s'adresse à quelqu'un. Et Seigneur, qu'il n'y ait pas de résistance. Que peut-être cette personne, ce frère, cette sœur, puisse sortir de cet endroit de déception, cet endroit d'amertume, et qu'il puisse retrouver cette eau douce que toi seul donnes. Seigneur, je te bénis parce que ce n'est pas la destination Mara, c'est Elim, c'est là où on peut se reposer dans ta présence. Seigneur, que chacun puisse découvrir ces endroits spirituellement, Seigneur, retrouver des forces afin de faire de chacun de nous, chacun d'entre nous, cette église qui va de l'avant, qui rayonne partout, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur mon Dieu, parce que tu le fais, Seigneur, maintenant, dans la vie, dans les cœurs. Seigneur, tu vois les prières maintenant qui montent des cœurs. Certains qui prennent des décisions. Seigneur, que tu puisses être avec eux, les accompagner et te glorifier dans leur vie. Je te prie pour chacun des membres, des familles, de mes frères et sœurs. Seigneur, bénis-les, ceux qui ne sont pas encore à toi. Seigneur, qu'au travers des témoignages de mes frères et de mes sœurs, Seigneur mon Dieu, tu puisses, Seigneur, les toucher. À toi la gloire, à toi l'honneur. Nous te disons, Seigneur mon Dieu, merci encore pour ces bons moments. Seigneur, que cette journée, Seigneur, tu puisses continuer de la bénir, c'est ce que tu vas faire, Seigneur. Que nous puissions garder ces paroles qui ont été annoncées et que tout cela serve pour la gloire de ton nom. Merci, ô notre Dieu. Amen.